Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel. Il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi. Anne Cantner.
2 heures ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une, ce jeudi 23 janvier, la République démocratique du Congo, les combats dans la région de Goma au nord Kivu, entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. De nombreux réfugiés et déplacés affluent depuis ce matin de la ville de Sake vers celle de Goma, à une vingtaine de kilomètres.
Toutes les écoles de l'ouest de la ville de Goma ont fermé. On a demandé aux écoliers et aux élèves de rentrer à la maison. La population reste malheureusement dans une situation de détresse parce que déjà les déplacés ne savent pas où se mettre. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'habitation. Bref, les enfants et les mamans sont en train de souffrir.
Le président de la société civile de Goma entretient à écouter dans 3 quarts d'heure. On reviendra aussi sur la situation, bien sûr, dans Afrique Midi, midi et demi. Temps universel. Au sommaire également, l'inquiétude des Nations Unies pour Haïti. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité hier, le secrétaire général s'est désolé de voir la transition avancer à une lenteur alarmante. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, lui, a demandé que la mission multinationale soit transformée en mission de l'ONU. On y reviendra à partir de 13h, temps universel.
RFI.
Nous reviendrons également sur la pandémie de Covid, 5 ans après l'apparition de ce mystérieux virus. Reportage à Wuhan, en Chine, où beaucoup de questions persistent.
Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes. Il n'y a pas eu de bilan officiel. Les critères pour les statistiques étaient très stricts. Par exemple, on ne comptait que les personnes officiellement diagnostiquées et décédées à l'hôpital. Et encore, il fallait mourir dans un service spécifique ou dans une zone désignée pour être pris en compte. Les crématoriums fonctionnaient 24 heures sur 24. S'ils brûlaient un corps toutes les demi-heures, je vous laisse faire le calcul.
Reportage après le journal de midi, temps universel. Nous parlerons aussi avec notre invité des risques qui existent aujourd'hui de voir de nouveau une telle pandémie se produire et des conséquences avec des États-Unis qui se retirent de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis du football aussi au programme. Le PSG relancé en Ligue des Champions après sa victoire hier soir 4-2 face à Manchester City. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI midi.
L'actualité européenne pour commencer est l'onde de choc Trump qui n'en finit pas d'occuper les débats, les pages des journaux et les esprits de très nombreux dirigeants, notamment donc ses alliés européens menacés comme les autres de droits de douane très élevés. Le nouveau président américain l'a dit, il l'a répété, sans détailler sa menace, mais déjà les députés européens tentent d'anticiper. Anastasia Becchio en a parlé avec eux en marge de la session parlementaire à Strasbourg hier.
Quelle carte les Européens vont-ils jouer si Donald Trump met à exécution ses menaces? Pour Céline Imar, exploitante céréalière et eurodéputée du Parti populaire européen, avant d'aller au rapport de force, il faut tenter l'apaisement.
Il semble aujourd'hui que l'administration Trump nous demande de nous approvisionner davantage en gaz en provenance des États-Unis. Moi, ça ne me paraît pas être une base de négociation délirante dans la mesure où on s'approvisionne aujourd'hui encore sur le gaz russe, ce qui indirectement nous permet quand même de financer l'effort de guerre russe. Donc peut-être que c'est aussi un point d'exigence ou en tout cas de départ dans les négociations où on peut peut-être se rapprocher des demandes de l'administration américaine sur ce sujet.
Une approche transactionnelle que rejette la députée centriste Marie-Pierre Vedrenne qui redoute qu'elle ne divise le marché intérieur. D'autant que les 27 n'ont pas tous la même relation avec le président américain.
Il y a certains chefs d'État et de gouvernement en Europe qui sont dans une logique d'espérance ou d'attentisme ou de soumission vis-à-vis de Donald Trump parce qu'il y a une crainte d'être ciblé. Et moi, je leur dis, attention, ni soumission, ni espoir vont les épargner. Ce qu'il faut, c'est véritablement l'unité européenne parce que notre force, c'est le marché intérieur. Un État membre seul ne peut répondre.
En présentant les priorités de la présidence polonaise du Conseil, Donald Tusk a appelé les 27 à coopérer pour une Europe plus forte. Anastasia Becchio, Strasbourg, RFI.
Voilà, une Europe forte, c'est aussi ce que préconise aujourd'hui le ministre français du Commerce extérieur, qui demande même aux 27 de préparer une réponse et d'éventuelles mesures de rétorsion pour éviter une guerre commerciale. Mais plusieurs entreprises européennes envisagent pourtant déjà la suite et, par exemple, une installation aux États-Unis justement pour échapper à d'éventuels droits de douane supplémentaires sur leurs exportations. D'autant que les États-Unis ont d'autres atouts, comme l'explique Alexandre Sumard, cofondateur de Time to Scale, une société qui aide les entreprises à se développer.
Le risque n'est pas nouveau, même dans le précédent mandat de Trump, il avait déjà fait ses menaces. Beaucoup d'entreprises ont installé, notamment dans l'industrie, des usines aux US pour produire à côté de là où ils vont vendre. Ceux-là, ceux qui produisent sur place, ne vont pas être touchés. Ceux qui vont être le plus touchés, a priori, c'est l'agroalimentaire, le vin français, le fromage, il peut y avoir certaines machines industrielles, l'aéronautique. Après, quand vous faites du service, vous êtes quand même moins touchés. Mais l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'ils vont s'installer aux États-Unis parce qu'ils ont peur des menaces sur les droits de douane, ou de se dire que peut-être d'aller aux États-Unis, parce qu'ils n'étaient pas assez présents, parce que la croissance américaine risque d'être un peu plus porteuse dans les mois, années à venir qu'en Europe. Donc on a plusieurs facteurs qui font que de nombreux acteurs se posent la question des États-Unis.
Propos recueilli par Agnieszka Kumor. La croissance européenne bien moins dynamique en effet qu'aux États-Unis. L'économie de l'un des grands pays du continent est plombée. L'Allemagne est en récession pour la deuxième année consécutive. Et de l'avis de plusieurs responsables politiques, le retour de Donald Trump au pouvoir tombe mal. C'est même un défi selon Olaf Scholz, encore chancelier pour quelques semaines. Car sauf énorme surprise, il devrait perdre son poste à l'issue des législatives anticipées du 23 février prochain. Celui qui est favori pour lui succéder, le conservateur Friedrich Merz, s'inscrit lui ce matin dans la droite ligne de la politique affichée à la fois par la Commission européenne et par le président en exercice des 27 hier sur l'immigration. Il dit aujourd'hui vouloir un changement fondamental du droit d'asile.
RFI, l'Europe à midi.
Dans 3 jours, la Biélorussie choisira son nouveau président au cours d'une élection sans véritable enjeu. Le sortant, Alexandre Loukachenko, brigue un nouveau mandat, mais il n'a pas pris le temps de faire campagne, expliquant être trop occupé à œuvrer pour la nation. Cela ne devrait pas l'empêcher d'être réélu et déjà l'opposition parle d'imposture. Les voix dissidentes en Biélorussie sont persécutées depuis plusieurs années, depuis la répression des contestations électorales de la précédente présidentielle, au point que près de 60 000 personnes ont fui vers la Lituanie voisine. Mais les autorités lituaniennes ne les accueillent pas toujours à bras ouverts et plusieurs centaines ont vu récemment leur permis de séjour annulé, officiellement pour menace contre l'État. Reportage Marielle Vituro.
Dans le dernier rapport des services de sécurité lituaniens, un chapitre entier est consacré à la Biélorussie, extrait du document sur le site des services de renseignement.
Le régime biélorusse considère les liens des États occidentaux avec les forces démocratiques biélorusses comme sa principale menace. En raison des organisations d'opposition qui sont installées en Lituanie et le nombre croissant de Biélorusses qui s'y installent, le pays est l'une des cibles principales du renseignement et l'activité y est particulièrement intense.
Le député Gigimantas Pabilionis travaille dans le groupe d'amitié avec les mouvements d'opposition biélorusse. Il s'engage depuis longtemps pour soutenir une Biélorussie démocratique et indépendante.
La Biélorussie et la Lituanie ont formé un État commun pendant des centaines d'années. Nous devons tous faire en sorte que les Biélorusses puissent se libérer de l'emprise de Moscou. Mais il faut savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a eu plus d'un cas où nous avons mis au jour le cas de Biélorusses en Lituanie qui travaillaient pour l'autre côté.
Ces 10 dernières années, 5 personnes ont été soupçonnées d'espionnage en faveur de la Biélorussie, annoncé récemment le parquet général de Lituanie. Ce sont néanmoins des centaines de permis de séjour qui ont été annulés pour menace à l'égard de la Lituanie, 1413 en 2023. Gurtam est l'une des plus grandes sociétés biélorusses installées à Vilnius. Elle développe des logiciels pour les flottes de véhicules. Les sociétés de nouvelles technologies ont été le fer de lance des protestations en 2020. Après la répression, la société Gurtam a définitivement quitté la Biélorussie. Au début de l'année 2024, 3 employés ont dû quitter l'entreprise après que leur carte de séjour a été annulée. Alexei Choko, le directeur.
Un employé a travaillé dans la milice il y a 15 ans. Mais il y a 15 ans, la milice en Biélorussie était quelque chose de complètement différent de ce qu'elle est aujourd'hui. Un autre a indiqué qu'il avait travaillé comme peintre dans les locaux du KGB pendant un mois, quand il n'avait pas de travail. Et il a indiqué ça dans le dossier de demande de permis de résidence.
Par la suite, les critères représentant une menace pour la Lituanie ont été élargis. Ce n'étaient plus les personnes ayant travaillé dans l'armée ou la milice, mais aussi dans le secteur public. Dans son entreprise, Alexei Choko a eu un cas comme celui-là.
Il y a eu aussi le cas encore plus problématique d'un employé dont la femme avait été embauchée dans une banque publique en Biélorussie. Son permis de séjour a été aussi annulé pour lui. Nos employés ont commencé à perdre confiance.
Récemment, le cas de Vassil Veramychuk, qui a combattu auprès des Ukrainiens, a fait grand bruit. Après avoir vu son permis de séjour annulé en Lituanie, où sont restées sa femme et sa fille, il s'est réfugié au Vietnam. Là-bas, il a été arrêté et extradé vers la Biélorussie. Un cas qui a fait réagir Svetlana Tsikhanouskaya, la chef de ville des opposants biélorusses, réfugiée en Lituanie depuis 2020. Elle a demandé de renforcer la protection des Biélorusses au niveau international. Depuis le début de la guerre russe contre l'Ukraine, il y a presque 3 ans, le nombre de réfugiés russophones a explosé en Lituanie. Aux 60 000 Biélorusses s'ajoutent désormais 80 000 Ukrainiens et 15 000 Russes, en tout 5% de la population, du jamais vu en Lituanie. Rytis Satkauskas est un avocat spécialisé dans les questions de migration.
À partir de 2023, on a commencé à se poser des questions dans le discours public, à savoir si le nombre de russophones ne représentait pas une menace pour la sécurité.
L'avocat relève que la Lituanie accorde de moins en moins l'asile aux Biélorusses.
Un décret du ministre de l'Intérieur début 2023 a limité les possibilités des demandeurs d'asile de prolonger légalement leur séjour. Ils ne pouvaient plus renouveler leur carte de séjour en attendant la décision de l'octroi de l'asile. Ainsi, ils ne pouvaient plus travailler et si leur demande était rejetée, ils étaient obligés de retourner en Biélorussie ou d'aller dans un pays tiers s'ils le pouvaient.
Depuis la fin 2024, la Lituanie a un nouveau gouvernement dirigé par les sociaux-démocrates. L'opposante biélorusse, Svetlana Tsikhanouskaya, a rencontré les nouveaux dirigeants. À chaque fois, cette question est au cœur des discussions.
Un reportage à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10 temps universel. Élection dimanche donc dans une Biélorussie sous sanctions européennes pour le soutien qu'elle a apporté à Vladimir Poutine lors de l'invasion de l'Ukraine en 2022. À ce propos, le Kremlin déclare ce matin ne rien voir de nouveau dans les déclarations de Donald Trump qui menace Moscou de nouvelles sanctions faute d'accord rapide avec l'Ukraine. Et sur le terrain, les autorités ukrainiennes déplorent ce matin la mort d'une personne dans un bombardement russe à Zaporijia. Bombardement qui a également fait une trentaine de blessés. Un coup d'œil à la presse européenne et l'aide à l'Ukraine justement qui fait débat en Allemagne. Ça n'est pas vraiment le montant qui pose problème, 3 milliards d'euros promis par les autorités, mais plutôt la manière de financer ce soutien supplémentaire. Voilà ce que nous explique le Süddeutsche Zeitung. La question centrale est de savoir qui va payer la note, dit le chancelier Olaf Scholz. C'est celui qui laisse cette question sans réponse, ment à la population. Une bonne nouvelle pour l'environnement. L'Europe produit plus d'électricité à partir du solaire que du charbon. C'est la conclusion d'un rapport repris par plusieurs journaux européens. The Guardian souligne que l'Allemagne et la Pologne, les deux pays qui brûlent le plus de charbon en Europe, font partie de ceux qui se sont tournés vers des sources d'énergie plus propres. Et El País précise qu'en plus d'être bénéfique pour la planète, les énergies renouvelables permettent aussi aux Européens d'économiser des milliards d'euros en importation. Et puis la presse italienne, elle, revient largement sur l'arrestation puis la libération du chef de la police libyenne en Italie. La Repubblica titre « Derrière la libération du tortionnaire, il y aurait un choix politique précis ». Et on va en parler tout de suite.
RFI Midi.
Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Cette affaire, l'affaire Al-Masri Najim, ne cesse de prendre de l'ampleur en Italie.
Oui, avec de nouvelles précisions qui émergent sur le déroulement à la fois de l'arrestation et de la libération 2 jours plus tard d'un homme qui est tout de même poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Selon la presse italienne, Osama Al-Masri Najim est arrivé samedi en Italie depuis la France dans une voiture de location enregistrée en Allemagne. Il assiste à un match de foot à Turin entre la Juventus et l'AC Milan et il est arrêté le lendemain à son hôtel à la suite d'un renseignement fourni par Interpol. C'est en voulant s'informer sur la restitution de son véhicule de location qu'Osama Al-Masri Najim aurait permis à Interpol d'alerter la police italienne. 2 jours plus tard, en raison d'un vice de procédure, c'est du moins l'explication officiellement donnée par les autorités italiennes, le chef de la police judiciaire libyenne est non seulement libéré, mais il est rapatrié dans son pays, dans un avion spécialement affrété par les autorités italiennes.
Et cette explication du vice de procédure ne convainc visiblement pas du tout l'opposition italienne.
Oui, les partis de gauche en effet, demande à Giorgia Meloni de venir personnellement s'expliquer sur cette affaire devant le Parlement. Giorgia Meloni voulait poursuivre les trafiquants d'êtres humains dans le monde entier, s'indigne la chef du parti démocrate Elie Schlein. Et au lieu de donner suite à la demande de la CPI, ils ont renvoyé cet homme impunément en Libye. Fin de citation. Autre déclaration cinglante, celle de Maria Elena Boschi, députée du parti centriste Italia Viva, qui estime étonnant qu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI se sente tellement en sécurité en Italie qu'elle puisse faire du tourisme à Turin et même aller voir un match de foot au stade.
Et en filigrane, ce sont les relations entre les autorités italiennes et libyennes qui sont mises en cause, Daniel.
Avec bien sûr l'accord conclu en 2017 et renouvelé par Giorgia Meloni qui prévoit des financements italiens pour aider la Libye à lutter contre les départs de migrants. En échange, la Libye s'est engagée à empêcher les départs de ses côtes, un pacte anti-immigration très critiqué par les ONG de défense des droits humains qui dénoncent les cas de torture et de mauvais traitements dans les centres de détention où sont refoulés les migrants. Or, l'homme qui a été libéré ce mardi par l'Italie est accusé justement d'avoir dirigé l'un de ces centres de détention, celui de Mitidja. Pour l'ONG de secours aux migrants Méditerranée Saving Humans, citée par l'agence France Presse, son arrestation aurait permis de montrer l'atrocité du système libyen financé, je cite, par les millions d'euros de l'Italie et de l'Union. L'Italie a-t-elle voulu, en libérant Al-Masri Najim, sauver ce pacte et éviter de faire la lumière sur ces crimes? C'est la question que posent désormais les ONG et l'opposition italienne au gouvernement de Giorgia Meloni.
Daniel Valo, à Rome, il est 12h46.
RFI Midi. Un monde de tech.
Il y a quelques jours, on nous assurait que les géants de la tech allaient se conformer au code de bonne conduite européen. On ne dit pas que c'est faux, mais visiblement, les députés européens estiment nécessaire de mettre un petit peu plus de pression sur les intéressés. Dominique Dezonnet, ils ont demandé à la Commission de sévir.
Oui, sous le feu des critiques pour son manque de réaction après les attaques contre les lois encadrant les activités numériques des grandes firmes de la tech américaine et chinoise dans les pays de l'UE, Bruxelles tente de calmer le jeu. L'exécutif européen indique avoir ainsi annoncé, c'était la semaine dernière, approfondir son enquête ouverte en 2023 contre le réseau X pour des faits d'ingérence électorale. La Commission européenne cherche par exemple à déterminer si le patron de X, qui a utilisé son réseau pour soutenir l'extrême droite allemande, lors d'un entretien diffusé sur sa plateforme en compagnie de sa dirigeante, constituait ainsi une infraction au règlement de l'UE. Cette semaine, la Commission a rappelé qu'elle avait ajouté l'intégration dans le règlement européen sur les services numériques, le DSA, un code de conduite renforcé pour lutter contre les discours haineux en ligne qui a été signé par le groupe Meta, TikTok, Google ou encore le réseau d'Elon Musk. Mais coup de tonnerre, aujourd'hui, les plateformes YouTube, Google et Microsoft reviennent sur leur engagement en abandonnant, comme Meta, leur programme de vérification des faits par des tiers et de passer à un modèle de notes de communauté similaire à l'approche de X. Des annonces, évidemment, qui inquiètent les eurodéputés.
Et la vice-présidente de la Commission européenne a dû justifier devant les députés européens les mesures qu'elle comptait prendre contre les dérives des grandes plateformes technologiques.
Effectivement, X bafoue nos règles, Meta abandonne le fact-checking, Google fait mine d'ignorer nos exigences de transparence pour la publicité politique. Nous sommes en plein Far West, se désole l'Italien Sandro Gozzi du groupe Renew dans l'hémicycle strasbourgeois. Les citoyens veulent des actions claires, enchérit Irax Garcia Pérez, la présidence grecque du groupe Alliance progressiste des socialistes et des démocrates. De leur côté, les groupes d'extrême droite ont dénoncé toute tentative de contrôle des réseaux sociaux comme des atteintes à la liberté d'expression.
Et selon les textes du DSA, le règlement européen, ces plateformes sociales sont tenues de respecter les règles européennes dites de transparence.
Oui, ces dispositifs sont censés permettre à des tiers indépendants d'analyser, par exemple, si l'algorithme du réseau social X favorise certains contenus politiques. Mais avec la venue de la nouvelle administration américaine, de nombreux eurodéputés redoutent que Bruxelles ne renonce à appliquer ses règlements par crainte de représailles de la part des États-Unis. Et malgré les pressions des députés de l'UE, Bruxelles n'a toujours pas précisé de calendrier pour les conclusions de son enquête sur le réseau X, ni même si de fortes amendes prévu par le DSA à l'encontre d'Elon Musk en cas d'infractions aux législations de l'UE était éventuellement envisagé.
Dominique Dezonnet pour notre monde de tech. L'actualité européenne, c'est aussi le sport, le foot et ce match à suspense incroyable du PSG hier soir en Ligue des Champions. Les Parisiens ont réussi à prendre le dessus sur Manchester City en renversant complètement la tendance pour s'imposer 4-2. Cédric De Oliveira, cette victoire, elle relance complètement le club dans la course à la qualification en 8e.
C'est le genre de soirée dont rêvent tous les supporters. Alors après le succès des Parisiens, Benoît et Maxime ont eu du mal à redescendre de leur nuage.
Quel match, vraiment quel match, ça fait vraiment du bien.
Exceptionnel, au début on était assez inquiets et ils ont réagi très vite. Et ça fait du bien, on méritait ça depuis un moment.
Frustrés cette saison en Ligue des Champions, les joueurs aussi avaient le sourire. Et en particulier le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma.
Ah ouf, c'était un match incroyable. Beaucoup d'émotions. Tout le monde en a fait un match incroyable. On a pris deux buts qu'on peut éviter. Mais après, la réaction de l'équipe, c'était fondamental. On va continuer comme ça.
Face à une équipe de Manchester City décevante, le PSG était pourtant mené 2-0. Mais porté par ses attaquants, il a tout renversé. Dembélé, Barcola, Neves et Gonzalo Ramos ont marqué en une mi-temps dans un Parc des Princes déchaîné. Pour le président du club Nasser Al Khelaifi, cette victoire 4-2 fera date.
Très, très spécial. On a une grande équipe, grande personnalité. Je suis très fier parce que c'était pas facile du tout. On vous sait, la semaine prochaine contre Stuttgart, c'est un match très très décisif.
Effectivement, ce succès emballant a le mérite aussi d'offrir provisoirement une place de barragiste au PSG. Mais pour s'éviter toute mauvaise surprise, il lui faudra ne pas perdre la semaine prochaine à Stuttgart lors de la dernière journée.
Parce qu'au classement de cette poule unique, le PSG est 22e avec 10 points. Le leader, c'est Liverpool devant le FC Barcelone et Arsenal. Le Real Madrid, vainqueur hier de Salzbourg, 5-1, lui est 16e et donc assuré d'être qualifié. Tous ces clubs, des grands clubs de foot qui rapportent toujours plus d'argent, c'est l'un des enseignements du cabinet Deloitte qui réalise chaque année un classement des 20 clubs les plus lucratifs. Bonjour Nicolas Feldman.
Bonjour Anne.
Comme pour la saison 2022-2023, c'est un club espagnol, le Real justement, qui occupe la première place et qui bat de nouveaux records.
Oui, puisque le Real Madrid devient le premier club de foot à générer sur une seule saison, tenez-vous bien, plus d'un milliard d'euros de revenus. Alors pour son calcul, le cabinet Deloitte se base sur trois sources de revenus. La billetterie d'abord, les droits télé ensuite et enfin les revenus commerciaux, c'est-à-dire par exemple la vente de maillots. Résultat, dans ces trois domaines, le Real gagne toujours plus d'argent. L'étude souligne par exemple que les travaux de rénovation du stade Santiago Bernabéu ont permis au Real de multiplier ses recettes de match par deux. Autre fait notable, le Real qui a presque tout raflé la saison dernière, Ligue des Champions, championnat, a vu ses recettes commerciales augmenter de près de 20%.
Et alors, puisqu'on parlait de lui il y a quelques instants, quelle est la place du PSG dans ce classement?
Eh bien, le PSG reste sur le podium, troisième juste derrière Manchester City. La saison dernière, le PSG a généré plus de 800 millions d'euros de revenus, portés notamment par des recettes de matchs en hausse. Les dirigeants parisiens qui cherchent à réduire les coûts de fonctionnement du club ont réagi à ce classement. Ils salue une croissance record et continue. Enfin, du côté des clubs français, l'Olympique de Marseille pointe lui à la 19e place, juste devant un petit nouveau, c'est l'Olympique Lyonnais qui, malgré ses problèmes financiers, fait lui pour la première fois son entrée dans ce classement. Il est 20e.
Merci Nicolas Feldman.
RFI Midi.
Rencontre à présent avec le metteur en scène Sébastien Kerouffi. Il adapte en ce moment au théâtre une pièce autrichienne racontant le retour au village d'un homme devenu écrivain. L'histoire d'un transfuge transposé en banlieue parisienne, mais les voix des humiliés, des exploités, elles, sont les mêmes partout. Sébastien Kerouffi en parle à Muriel Malouf.
Sébastien Kerouffi, vous mettez en scène Par les villages de Peter Handke, qui démarre par le retour du frère dans sa famille. Que raconte Par les villages?
Par les villages, ça raconte avant tout une tragédie familiale à l'intérieur d'une tragédie sociale, et à la fin qui émane un poème dramatique.
Alors cette tragédie familiale, c'est aussi le fait que cette famille considère ce frère qui est parti comme un traître.
Je pense que c'est plus lui qui dit, mais dès le prologue, je sens mon irresponsabilité et ma trahison. Je sais que je ne peux rien faire pour mon frère et ma sœur, je ne peux que maintenir. Et cela, je le veux à tout prix maintenir. Oui, c'est lui, je pense, qui sent ce sentiment de trahison et justement qui fait qu'il revient avec ce sentiment-là. Et après... C'est toujours, en fait, c'est le malentendu entre les êtres, le malentendu entre l'écrivain et l'ouvrier, le malentendu entre ce frère à l'intérieur de cette fratrie, le malentendu entre deux milieux sociaux qui s'opposent. Enfin, en tout cas, moi, le spectacle, je l'ai vraiment bâti sur ce malentendu-là.
Alors, le frère qui est parti est interprété par Reda Kateb et il a quitté une cité, on parle d'une cité, donc vous avez transposé tout ça dans la banlieue ?
Complètement. J'ai pas du tout grandi, moi, dans un village autrichien. J'ai grandi dans un quartier en banlieue parisienne. Et donc, très vite, moi, ce texte-là, je l'ai entendu à l'endroit de ma cité. Ça résonne très fort pour moi, la question des offensés, des exploités, des humiliés. Et très vite, la poésie permet d'éviter toute récupération ou tout fantasme. C'est juste à l'endroit le plus juste. Et c'est pour ça que j'ai voulu transposer ce texte-là en disant, en fait, la poésie, elle peut toucher tout le monde. Qu'on soit dans un village autrichien ou dans un quartier en France ou peu importe en fait.
C'est vrai qu'il résonne vraiment très fort avec le monde. Il y a des phrases comme ça qui jaillissent, comme par exemple « Il n'est pas silencieux, il est dénué de bruit ».
Complètement. Mais il y a tellement « retourne chez toi à l'étranger, il n'y a que là-bas que la joie soit proche de la terre ». Pour un être humain, il faut un grand pays et l'abandon. Et où sont ici les abandonnés ? Enfin, chaque soir, je redécouvre le texte en permanence. Je travaille sur ce texte depuis 3 ans, 4 ans. Et c'est une matière inépuisable.
Alors ce texte, votre mise en scène, c'est avec 11 acteurs, mais aussi un chœur immense. Combien de personnes il y a sur scène en tout ?
Chaque soir, on est entre 60, 80, 90. C'est un chœur qui est constitué de 100 habitantes et habitants d'Ivry-sur-Seine. Et ce chœur, en fait, c'est le chœur du village. C'est-à-dire que très vite, la question de la représentation s'est imposée. Comment on représente un territoire ? Un territoire discriminé, un territoire souvent fantasmé. Et je me suis dit, mais en fait, je pense que pour être le plus juste à l'endroit de cette question de la représentation, c'est en travaillant avec les gens qui y vivent.
Et il y a aussi les langues.
Et complètement, on entend du créole, on entend du slovène, on entend de l'algérien. Enfin ouais, pour moi, j'ai été bercé par différentes cultures. Mais pour moi, ça paraît assez évident, mais très simple en fait, sans en faire aucune forme de militantisme en fait.
Alors il y a la langue et il y a aussi le rythme, puisque le rap est là, et qui est porteur d'espoir.
Mais complètement, parce que le rap c'est rythme et poésie à la base, c'est aussi cet endroit de révolte sociale.
Shukran, merci.
Merci beaucoup.
Le paysage existe où vous pouvez tourner en rond, et derrière vous le vide devient fertile. Le vide devant vous se remplit de l'attente de ceux qui marcheront là plus tard. Le satellite froid redeviendra la lune à l'œil clair. Regardez le jardin d'Éden et ne vous laissez pas convaincre qu'il n'y a pas de beauté. C'est la beauté créée par nous qui est mouvante. Inventez sans cesse l'énigme et déchiffrez-la. Éclaircissez la seule énigme. Nous réveiller le matin et allez nous reposer le soir. N'y a-t-il pas eu déjà beaucoup de nuits sans peur, front contre front, avec un enfant, un animal ou l'air calme. Et ne vous êtes-vous pas reconnu dans le contour des constellations ?
Extrait de cette pièce de Sébastien Kérouffi qui parlait à l'instant au micro de Muriel Malouf. La suite sur RFI, c'est un nouveau journal dans quelques minutes, l'essentiel de l'actualité internationale. Puis nous parlerons avec notre invité du risque de voir une pandémie telle que celle du Covid se produire de nouveau dans le monde. Nous sommes 5 ans après l'apparition du virus. Et puis à midi et demi, temps universel Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner.
Avec à la une aujourd'hui.
L'est de la RDC, des combats se poursuivent ce matin autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Les forces armées congolaises et leurs alliés affrontent les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise. D'importants mouvements de population sont signalés. Au Gabon, le premier tour de la présidentielle, il est officiellement fixé au 12 avril.
À tout à l'heure Nicolas, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. Et pour le moment, on va écouter un peu de musique avec ce titre de l'actrice, chanteuse, compositrice Mira. Il s'appelle « Rien de sensationnel » et il est à découvrir en ce moment dans la playlist RFI.
J'ai demandé pardon solennel, faute incentrelle. J'ai bien lu le mensonge sur tes lèvres, et tout le monde le répète après. Je me mélange pas là, c'est plein de faux. J'ai tout bien là comme il faut. Ils aiment pas être solo, ça va avec. Rien de sensationnel. Rien en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qui s'en aille. Ça va tip-top, je fais comme une gift box. Bébé va faire tes feuilles. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qu'ils s'en aillent. Ça va tip-top, je ferai comme une gift-box. Bébé va faire tes feuilles. De larmes là, j'ai gâté le make-up. Je la vois la vie, la vraie. Du moche, du sale, du joli et du fucked up. Et Dieu sait après. Papa est dans la lune, maman sous la pierre. Et moi je suis perdu. Je joue plus de guitare, je fais des prix.